Il avait adhéré à une vision radicale de l'islam. Le tueur de la préfecture de police de Paris, Michael Harpon, avait prémédité son acte. Ses quatre collègues fonctionnaires de police ont été victimes d'un attentat djihadiste. Le procureur antiterroriste Jean-François Ricard l'a clairement confirmé. La droite et l'extrême droite demandent une enquête parlementaire sur les failles des renseignements. Les Républicains réclament en outre la démission du ministre de l'Intérieur, Christophe Castaner. Le nouveau coup de force d'Extinction Rébellion, le tout jeune mouvement écologiste aux actions médiatiques dont les militants ont bloqué toute la journée un centre commercial parisien considéré comme un symbole du capitalisme. De leur côté, les opposants au projet Europa City de Gonesse se sont rassemblés devant Matignon pour dénoncer une folie destructrice de l'environnement. Le directeur du projet leur répond dans un instant. Dans ce journal également, un trafic très perturbé dans les transports à Marseille. Les chauffeurs de bus, métro et tram ont exercé leur droit de retrait après l'agression d'un contrôleur. De la tête de veau et des pommes en Corrèze pour un dernier hommage des Corréziens à Jacques Chirac. Un cinquième jour de contestation en Irak où les manifestations ont déjà fait depuis mardi une centaine de morts. Les Bleus en finale du relais 4x100 ce soir à Doha. Hugo Lloris gravement blessé au bras, indisponible pour les prochains matchs de l'équipe de France. La nuit blanche, tout à l'heure à Paris et toute la nuit bien sûr. La vie connectée de Christine Simone et puis bien sûr la météo automnale de Jean-Michel Golinski.
France Inter.
Il n'y a maintenant plus aucun doute, la tuerie de la préfecture de police était bien un acte terroriste. Le procureur Jean-François Ricard du parquet national antiterroriste l'a dit très clairement tout à l'heure. Michael Harpon, qui a tué jeudi quatre de ses collègues et fonctionnaires de police, avait adhéré à une vision radicale de l'islam et il était en contact avec des individus de la mouvance salafiste. Toute son attitude du jeudi matin montre une grande détermination. Emmanuel Leclerc, c'était un acte parfaitement prémédité et qu'il a d'ailleurs exécuté avec une extrême violence.
Oui, Jean-François Ricard a évoqué les résultats des premières autopsies qui attestent, dit-il, de l'extrême violence des attaques. Dans les bureaux de collègues de Michael Harpon, puis dans l'escalier devant l'ascenseur du rez-de-chaussée où il a encore tué et blessé deux policières avant d'être abattu par un gardien de la paix stagiaire en faction dans la cour. 7 minutes d'horreur au total. Donc, le procureur antiterroriste a ensuite confirmé qu'il y avait bien eu pourtant des signes avant-coureurs au travail et dans sa vie privée, selon plusieurs témoignages.
Plusieurs témoignages ont fait apparaître que l'auteur des faits aurait adhéré à une vision radicale de l'islam. D'abord, son approbation de certaines exactions commises au nom de cette religion, son souhait de ne plus avoir certains contacts avec les femmes, sa justification auprès d'un collègue de travail des attentats commis dans les locaux du journal Charlie Hebdo en 2015, l'intéressé abandonnant toute tenue occidentale au profit d'une tenue traditionnelle pour se rendre à la mosquée.
Le procureur Jean-François Ricard, procureur antiterroriste. Alors compte tenu de tous ces éléments, Emmanuel, en ajoutant aussi les 33 SMS échangés avec son épouse le matin même du drame, hein, des SMS à connotation religieuse, on comprend encore moins que le tueur soit passé à travers les radars du renseignement.
Oui, pour les policiers, c'est bien ce qui ajoute à la sidération de cette attaque au couteau par un agent de la préfecture de police de Paris. Pourquoi et comment n'y a-t-il pas eu de signalement écrit, une note qui aurait entraîné des vérifications, un criblage de cet agent pour voir qui il fréquentait par exemple ces derniers temps.
Voilà, en ajoutant que la garde à vue de l'épouse du tueur a été prolongée de 48 heures. La piste de la radicalisation étant donc maintenant la plus probable, l'affaire prend une tournure plus politique. La droite et l'extrême droite réclament une enquête parlementaire en prenant pour cible le ministre de l'Intérieur, Christophe Castaner, lequel avait assuré que le tueur en poste à la préfecture de police depuis 2003 n'avait jamais donné le moindre signe d'alerte, ce qui pour les Républicains n'est plus le cas bien sûr. Pour le député Éric Ciotti, la crédibilité du ministre est donc totalement nul. Il a parlé trop vite, explique aussi le président du groupe Les Républicains au Sénat, Bruno Retailleau. Et pour le moins, il doit être entendu, comme l'a dit à France Info le député et vice-président LR, Damien Abad.
La question doit être posée. Moi, je ne suis pas de ceux qui souhaitent à chaque fois les têtes des ministres, mais malheureusement, ce n'est pas la première fois que ça se produit, qu'on a un ministre qui est dans le commentaire, qui veut agir, qui veut montrer qu'il est aux manettes, et ensuite, on a une réalité des faits qui est inverse. Donc ce que nous demandons, c'est que, au-delà de la question de M. Castaner, c'est qu'une commission d'enquête parlementaire soit mise en place. C'est la demande de Christian Jacob et d'Éric Ciotti que nous soutenons chez les Républicains, qui est une demande importante parce qu'il faut que la lumière soit faite sur ce qui s'est passé à la préfecture de police de Paris.
Voilà, la présidente du Rassemblement national, Marine Le Pen, qui dénonce un scandale d'État, réclame elle aussi une commission d'enquête parlementaire. Une cérémonie en hommage aux quatre fonctionnaires se tiendra mardi à 11h à la préfecture de police de Paris en présence d'Emmanuel Macron. Plusieurs centaines de manifestants qui bloquent un centre commercial. C'est en ce moment même à Paris, le centre Italie 2, qui a été bloqué une grande partie de la journée par les militants d'Extinction Rébellion, le mouvement écologiste créé il y a à peine un an et qui multiplie les coups de force médiatiques, a pris cette fois pour cible ce qu'il dit être un symbole du capitalisme, un lieu emblématique de la consommation. Pierre, un manifestant de 25 ans, au micro de Julie Paco.
En fait, on arrivait par petites équipes où chaque équipe avait un rôle spécifique. Donc certaines, c'était bloquer telle porte, certaines, c'était apaiser la tension. Donc voilà, on s'est répartis en petites équipes, on avait une heure H à laquelle on devait intervenir. Et chacun avait son rôle et du coup, on a pu prendre le lieu comme ça, quoi. On a eu des chorales, on a eu des discussions. Il y a eu aussi là un débat là qui vient de se terminer sur la convergence entre les luttes sociales et écologistes, entre les gilets jaunes et les mouvements écolos. En particulier, on a essayé de revenir aux racines un peu du problème, puisqu'on se dit un mouvement radical, pas dans le sens mouvement violent, mais un mouvement radical qui s'attaque aux racines des problématiques. Donc que ce soit, comme je l'ai dit, le colonialisme, le capitalisme, la prédation des ressources. Voilà, on a essayé d'avoir des débats de fond sur ces questions-là, de voir à quel système on s'attaque et par quel bout on le prend, parce que c'est tellement généralisé qu'il faut bien qu'on trouve des points d'accroche.
Et des gilets jaunes, effectivement, se sont joints au mouvement. À Gonesse, un grand projet de développement pour l'économie ou bien une folie destructrice de l'environnement. Le projet Europa City n'a pas fini de susciter la polémique. Pour ceux qui s'y opposent et qui se sont rassemblés tout à l'heure devant Matignon, le gouvernement doit tout stopper. Les boutiques, les hôtels de luxe, le parc d'attractions, une gare RER qui, de leur point de vue, ne servira pas. Ce projet, le plus gros investissement en France depuis Euro Disney, c'est un non-sens écologique. Et les promesses d'en faire un ensemble zéro carbone, c'est de la poudre aux yeux. Ce que nous disait à 13h l'invité du journal, représentant du collectif de défense du triangle de Gonesse. Et ce que conteste évidemment le directeur du développement de ce projet Europa City, David Lebon, joint tout à l'heure au téléphone par Julie Pietri.
On ne réglera pas les problèmes de la planète en revenant au modèle agricole du XVIe siècle. On réglera les problèmes de la planète en faisant des projets zéro carbone, en mettant 100% d'énergie renouvelable. Nous avons annoncé hier une division par 3 des surfaces commerciales d'Europa City. Il y a une volonté de caricaturer pour essayer de mobiliser une opinion publique et pas d'avoir un débat rationnel. Comment ne pas croire que faire venir un métro dans cette banlieue pauvre va avoir un impact positif sur l'environnement ? La marche qui a lieu en ce moment, c'est une marche contre une gare de métro dans cette banlieue. Et cette gare de métro, elle arrive parce qu'il y a des investisseurs privés qui permettent de la financer. Mais cette gare, elle sert ce territoire, elle sert ses habitants, elle défend l'intérêt général. La réalité, celle dont on ne parle pas, c'est qu'on est dans la banlieue parisienne, dans un territoire qui a besoin d'emploi, de développement économique et de changement d'image. On va faire venir une gare dans une banlieue pauvre et on va y créer des milliers d'emplois. Et donc, pour créer ces milliers d'emplois, eh bien, on a besoin de foncier pour le faire. Le débat, il est là.
Sur ce projet d'Europa City, la ministre de l'Environnement, Elisabeth Borne, a repris les consultations. Un trafic très perturbé à Marseille ce samedi et ce soir encore. Les chauffeurs de métro, de bus, de tram ont fait valoir leur droit de retrait après l'agression d'un contrôleur ce matin dans un dépôt, agressé par un homme cagoulé qui l'a roué de coups. Claire Leys à Marseille.
Après le choc de la nouvelle, c'est la colère qui monte au dépôt Saint-Pierre. Devant les bus vides, près de 200 agents sont amassés en signe de protestation. Zora est conductrice à Marseille depuis 1999. Dans son bus, elle a vu l'insécurité augmenter d'année en année.
J'en ai la nausée parce qu'aujourd'hui, c'est au sein du dépôt qu'on est victime. On devrait être beaucoup plus à l'aise quand on vient de travailler, c'est-à-dire moins la boule au ventre. Pour un oui, pour un non, avec tous les travaux qui sont enclenchés dans la ville, nous subissons énormément. Même avec les caméras, ça ne les empêche pas. Donc souvent, on prend sur nous et les gens sont à fleur de peau.
Des insultes, des menaces. Son collègue Hervé en a reçu beaucoup. Face aux situations compliquées, il se sent abandonné.
Pas plus tard que ce matin, j'ai pris un jeune qui avait l'arcade sourcilière ouverte et le menton ouvert. Rien qu'à ce niveau-là, on est toujours seul, toujours seul, toujours seul, toujours seul.
Hervé et ses collègues demandent des mesures de protection, à commencer par des maîtres chiens à l'abord des dépôts. Pour Zora, il y a urgence.
Garder sur soi tout ça, ça pousse à des suicides, ça pousse à des démissions, ça pousse à des dépressions. C'est un métier qui était difficile, mais qui devient de plus en plus difficile.
Hervé, Zora et leurs collègues décideront demain matin s'ils reprennent le service.
Claire Leys à Marseille. Et pendant ce temps, la Corrèze rendait hommage à Jacques Chirac. Après l'hommage national et les obsèques à Paris, c'est l'élu local que sont venus saluer les Corréziens de Sainte-Féréole ou de Saran, en compagnie de sa famille et de François Hollande, dont la Corrèze fut aussi le berceau politique, Philippe Gradiani.
Il y a certes beaucoup de personnalités locales, des élus, mais ce sont surtout des anonymes qui ont voulu rendre ce dernier hommage. Plus d'une semaine après le décès de Jacques Chirac, beaucoup de Corréziens restent inconsolables.
On ne retrouvera jamais le même dans le pays.
Tous les jours, on pense à lui.
On ferme une parenthèse. C'est bête, mais c'est comme ça.
Ça me touche beaucoup qu'ils soient partis. Pour moi, c'était un père.
Et beaucoup de Corréziens se disent très touchés de la venue en Corrèze de la famille Chirac. Claude et son mari et Martin Ray Chirac, le petit-fils, ont été longuement ovationnés, entourés par la foule. Bernadette Chirac, elle, très affaiblie, n'a pas pu venir. La famille a été très touchée à son tour par cet hommage de la Corrèze, comme le dit Martin.
S'il nous regarde, eh ben, je pense qu'il doit apprécier vraiment, parce que la Corrèze, ça fait partie de lui. Et je pense que le plus important, c'est d'être ici avec tout le monde et lui rendre un bel hommage.
Et comme un écho à ce jour de juin 2011 où Jacques Chirac apporte son soutien à François Hollande pour la présidentielle, l'autre ancien président corrézien avait tenu à être là également. Ils ont eu plus de points communs que de différences, selon François Hollande.
J'ai été président de ce département, j'ai été député de la Corrèze pendant presque 30 ans. J'ai été comme lui président. Nous sommes beaucoup frottés parfois et appréciés, je crois, à la fin.
Et pour cet hommage corrézien à Jacques Chirac, tous les symboles étaient là au menu du buffet qui a clos la journée de la tête de veau et des pommes.
En Irak, au cinquième jour de contestation, de nombreux manifestants sont à nouveau descendus dans les rues de Bagdad, chiites pour la plupart. Ils dénoncent la corruption du pouvoir, la déliquescence des pouvoirs publics. La contestation a fait officiellement une centaine de morts et plus de 4000 blessés depuis mardi. Et de nouveau, des tirs ont été entendus cet après-midi dans le centre de Bagdad. Alors comment comprendre cette contestation et jusqu'où peut-elle aller? L'analyse de Pierre-Jean Luisard, historien spécialiste de l'Irak. Il est au téléphone de Marie-Pierre Véraud.
Tout ceci illustre quelque chose qui renvoie à la faillite du système politique mis en place par les Américains en 2003 et qui est une forme de confessionnalisme politique inavoué un peu à la libanaise qui emprisonne tous les acteurs dans une cage confessionnelle dont ils ne peuvent pas sortir. Donc on est dans une situation inextricable où il n'y a pas de solution politique. Pour qu'il y ait une traduction politique, il faudrait qu'il y ait un parti politique ou un mouvement ou un courant susceptible de s'émanciper des liens du confessionnalisme politique. Or, tous les mouvements, sans exception, les mouvements chiites religieux, ont des intérêts à défendre ce système qui pourtant a montré sa faillite. Et on se demande jusqu'où cela peut aller, parce que la société irakienne a atteint un point de non-retour dans le fait de ne plus pouvoir supporter l'insupportable, c'est-à-dire l'absence de services publics, la corruption, l'incapacité des premiers ministres qui se succèdent à résoudre le moindre problème.
En sport du foot, ce soir avec le PSG qui n'a pas eu de problème face à son dauphin Angers, les Parisiens l'emportent à l'instant 3-0. Mais en foot, on retiendra surtout la blessure d'Hugo Lloris, le gardien de l'équipe de France et de Tottenham, qui a lourdement chuté sur le coude sur le terrain de Brighton. Lloris qui devrait être absent des deux prochains matchs des Bleus contre l'Islande et la Turquie. Au Mondiaux d'athlétisme à Doha, peut-être une médaille française tout à l'heure dans le relais 4x100 mètres. C'est quasiment la dernière chance d'étoffer un peu le maigre palmarès des Bleus. Deux médailles pour l'instant, argent et bronze. Les garçons du relais vont avoir fort à faire, Vincent Pellegrini.
Effectivement Yves, mais les séries disputées hier ont fait naître un peu d'espoir. Le relais tricolore s'est qualifié en réalisant le troisième meilleur temps d'un 4x100 français de l'histoire, à seulement 9 centièmes du record de France, grâce surtout à de très bonnes transmissions du témoin. Une performance encourageante, d'autant que le relais français pourra compter tout à l'heure sur un renfort de choix. Christophe Lemaître, laissé au repos hier, fera son retour en position de dernier relayeur pour l'ultime ligne droite. Deux pays paraissent inaccessibles, sauf imprévu, toujours possible en relais. Les États-Unis et la Grande-Bretagne devraient logiquement se disputer le titre. Mais derrière, c'est très ouvert. Parmi les candidats au podium, l'Afrique du Sud, le Brésil, le Japon et donc peut-être le relais français. À noter un absent de taille dans cette finale, le relais jamaïcain, orphelin d'Usain Bolt, éliminé hier en série. Épreuve toujours spectaculaire, Yves, le 4x100 mètres, programmé à 21h15, heure de Paris.
On y sera, merci Vincent Pellegrini à Doha. En rugby, une fois n'est pas coutume, les Bleus peuvent se réjouir d'une victoire des Anglais. Et oui, les Anglais qui ont battu l'Argentine facilement, 39 à 10. Les Bleus qui devront battre quand même les Tonga demain matin. Allez, on sort ce soir à Paris et même on fait une nuit blanche pour les plus vaillants. La nuit blanche, 18e édition. Des dizaines d'événements, de performances et de projets artistiques à travers toute la capitale. Le tout placé sous le thème du mouvement. Demandez le programme à Bastien Mu.
Cette 18e édition se place à la frontière de l'art et du sport, à l'image de la performance de l'artiste Meryl Levis au stade Ladoumègue dans le nord-est de Paris. Les visiteurs participent à un tournoi de travball, un sport collectif où le ballon est un traversin. Le match est encadré par des drag queens qui arbitrent et dirigent les équipes.
On remet la balle au sanglier, faute !
De l'art, du sport, pour casser les clichés, selon Meryl Levis.
Les drag queens, c'est aussi montrer qu'elles ne sont pas que des créatures de la nuit et qu'elles ne sont pas idiotes ou superficielles. Et du coup, ça permet aussi de croiser des domaines, en sachant que les drags dans l'art contemporain, je trouve ça assez beau.
Fil rouge de cette nuit blanche en mouvement, une grande parade artistique se tient entre les places de la Concorde et de la Bastille. Des œuvres monumentales vont défiler jusqu'à 22h, dont la tente de la nuit blanche des animaux, réalisée par l'artiste Annette Messager.
La nuit blanche, c'est toujours des choses très grandes, très démonstratives. Alors que pour moi, la nuit, c'est l'énigme, c'est le mystère. Donc, c'est des humains, c'est des animaux, c'est nous, c'est pas nous, c'est nos rêves, nos cauchemars. Je voulais que ça soit une nuit blanche secrète.
Une nuit blanche qui prend aussi possession du périphérique parisien, partiellement fermé aux voitures pour l'occasion. Pour la première fois, les visiteurs pourront en parcourir une partie à vélo, le tout mis en lumière par le collectif 1024 Architecture.
Voilà, un grand vélodrome lumineux, ouvert à tous, de la porte de Pantin à la porte de la Villette. Dans notre vie connectée ce soir, une petite fierté pour Radio France, à voir sur nos écrans, en ligne ou dans un casque de réalité virtuelle. Bonsoir Christine Siméone.
Bonsoir à tous.
C'est un film de 16 minutes intitulé Accusé numéro 2, un accusé qui s'appelait Walter Sisulu, le stratège de Nelson Mandela. Tout le monde connaît Mandela, bien sûr, et son histoire, le combat contre l'apartheid. Accusé numéro 2, c'est l'expérience en VR que vous avez fait cette semaine. Semaine dans votre vie connectée.
Call accused number 2. Walter Sisulu.
Walter Max Aliette Sisulu.
Ce bruit, ces voix que vous entendez là, ce sont les archives sonores d'un célèbre procès dans l'histoire de l'apartheid en Afrique du Sud, le procès Rivonia en 1964. L'accusé numéro 2, appelé ici Walter Sisulu, c'est le stratège de la lutte anti-apartheid. Ce film est un petit bijou à tout point de vue. D'abord, ses archives sonores récupérées par l'INA, spatialisées dans les studios de Radio France. 16 minutes durant lesquelles Walter Sisulu raconte sa vie de militant à la barre, rétorque avec force au procureur qui l'interroge, le tout dessiné au noir par l'artiste Ourde. Avec ces archives, les réalisateurs Nicolas Champeau et Gilles Porte avaient déjà fait un documentaire autour de Mandela. Avec la réalité virtuelle, ils se concentrent sur Sisulu. Écoutez Nicolas Champeau.
La réalité virtuelle permet d'enfermer le spectateur dans une salle de procès. De reconstituer le huis clos du procès, de se retrouver vraiment dans une sorte d'intimité, de vivre l'expérience des accusés. Et là où le format VR nous permettait de jouer avec des élévations, que ce soit dans la salle de procès, mais aussi dans des townships, on l'a exploité.
Alors un procès qui fut aussi un duel entre Sisulu et le procureur.
L'échange qui se passe là, c'est entre Sisulu et le procureur. « Comment savez-vous qu'on arrête des innocents ?» dit le procureur. « Je le sais, » répond Sisulu. « Si quelqu'un a été persécuté ici, c'est moi. J'ai été arrêté 6 fois en 1962. » J'aimerais vous voir à la place d'un Africain, alors vous vous rendriez compte de la situation dans le pays. Voilà ce qu'a dit Sisulu au procureur du procès Rivonia.
Sisulu, qui a été condamné à vie, finalement relâché en 1989, il est mort en 2003, après une autre carrière politique.
Tout est fait pour être sobre dans cette narration, tout conduit à laisser place à la force des faits, des mots et des actes historiques qui se sont joués dans ce procès Rivonia.
La vie connectée de Christine Siméon a retrouvé bien sûr sur franceinter.fr. Ce film sera présenté lors du festival Média en scène à la Maison de la Radio le 8 octobre, car Radio France, on l'a dit, a permis la spatialisation sonore du film. Le temps.
La météo avec Région Job. Trouvez le job qui va vous faire aimer le lundi avec Région Job.
Jean-Michel Golinski.
Une nouvelle vague de pluies régulières va arriver ce soir par la Bretagne. Demain, elle va traverser une grande partie du pays vers l'est, touchant la frontière allemande à la mi-journée, puis les régions proches de la Suisse en cours d'après-midi, en donnant des flocons sur les Alpes du Nord au-dessus de 2000 mètres et vers 1500 mètres dans la nuit de dimanche à lundi. Sur les régions de l'ouest, après les pluies, c'est un régime de ciel variable avec averses qui va s'engager dès le matin sur la Basse-Normandie, les Pays de la Loire et la Bretagne. En journée, ce temps instable va gagner vers la Belgique, le bassin parisien, le centre, le Limousin et l'Aquitaine, poussé par un vent de nord-ouest assez fort au nord de la Loire et près de l'océan. Enfin, autour de la Méditerranée, le Mistral et la Tramontane sensibles vont maintenir un temps plutôt bien dégagé. Les températures maximales, pratiquement partout stationnaires, vont afficher 15 à 18 degrés dans la moitié nord, une moyenne de 21 dans le sud-ouest et de 24 près de la Méditerranée.